en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Cher Philippe Aguillon, monsieur le professeur, vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de l'enseignement technique, l'ENS de Cachan, et vous êtes titulaire d'un doctorat de troisième cycle d'économie mathématique que vous avez obtenu à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Vous êtes parti compléter votre formation aux États-Unis, où vous obtenez un doctorat d'économie à Harvard. Vous êtes immédiatement choisi pour enseigner au prestigieux MIT de 1987 à 1989. Vous revenez en France où vous êtes élu chargé de recherche au CNRS en 1989, mais dès 1992, vous êtes appelé par les universités étrangères. Vous êtes successivement professeur associé au Nuffield College à Oxford entre 1992 et 1996. Professeur à University College de Londres de 1996 à 2002, puis à Harvard, professeur d'économie pendant 2 ans, puis Robert C. Wagoner, professeur of Economics de 2002 à 2015. Tout en étant professeur à Harvard, vous commencez à enseigner à l'École d'économie de Paris à partir de 2006. En 2015, vous êtes élu professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Économie des institutions de l'innovation et de la croissance. Vous êtes également professeur invité à l'Institut d'études économiques internationales de Stockholm depuis 2009. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages ou articles de référence en anglais de 1992 à 2005 et puis en français à partir de 2006. Je vais me tenir à ceci. Politique économique et croissance en Europe en 2006. L'économie de la croissance, en collaboration en 2010, repenser l'État pour une nouvelle social-démocratie, en collaboration en 2011, et puis changer de modèle en 2014. Vos ouvrages ont retenu bien souvent l'attention des politiques et vous ne vous dérobez pas à l'engagement. Le cœur à gauche, social-libéral, comme vous vous définissez, vous êtes proche de Ségolène Royal lors de sa campagne présidentielle de 2007. Vous vous rapprochez ensuite de Gérard Collomb, avec qui vous fondez un think tank. En 2012, vous intégrez le petit cercle d'économistes qui réfléchit aux propositions de François Hollande, mais vous n'êtes guère entendu et vous exprimez rapidement votre déception. Vous soutenez au cours de sa campagne notre nouveau président de la République, que vous avez rencontré à l'occasion de la commission Attali, dont vous étiez membre. Nous sommes convaincus que vous trouverez désormais des oreilles plus réceptives. Vous avez été membre du Conseil d'analyse économique de 2006 à 2012. Dans ce cadre, vous avez publié de nombreux rapports, dont « Éducation et croissance » en 2004 avec Élie Cohen, « Les leviers de la croissance française » aussi en 2007 avec Élie Cohen, Gilbert Sept et Jean Pisani-Ferry, et puis « Mondialisation, les atouts de la France » en 2007 avec Patrick Artus, Élie Cohen et Daniel Cohen. Vous avez également animé, dans le cadre de Bruegel, un groupe de réflexion d'une dizaine d'experts internationaux dont le travail a porté initialement sur une comparaison internationale de l'autonomie des universités, puis sur la mise en œuvre des campus d'excellence universitaire. Cette brillante et féconde carrière vous a valu de recevoir de nombreux honneurs et distinctions. La médaille de bronze en 1995, puis la médaille d'argent en 2006 du CNRS. L'Irio Janssen Award, décerné par European Economic Association en 2001. Le prix de la Revue française d'économie en 2001. Le Schumpeter Prize of the International Schumpeter Society en 2006. Le John von Neumann Award en 2009. Le Grand Prix de l'économie des Échos en 2016. Mais je soulignerai surtout que vous avez obtenu en 2015 notre Grand Prix Zérilly Marimo de notre compagnie pour l'ouvrage « Changer de modèle » que j'ai évoqué il y a un instant, en compagnie d'Élie Cohen et de Gilbert Sept. Vous êtes également membre de la prestigieuse Société d'économétrie et membre associé de l'American Academy of Arts and Science depuis 2009. Spécialiste de la croissance et de son moteur qu'est l'innovation, vous auriez pu intervenir à juste titre sur bien des sujets au cours de cette année académique que nous avons consacrée aux réformes qui sont aujourd'hui nécessaires pour redresser notre pays. Nous avons choisi de vous interroger sur l'enseignement supérieur, point crucial lorsqu'il s'agit d'innovation, qui a fait l'objet de votre part d'un rapport, malheureusement laissé sans suite. Je vous laisse donc maintenant répondre à notre question. Quelle réforme pour assurer la compétitivité internationale de notre système d'enseignement supérieur et de recherche ? Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole.
Bah écoutez, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, donc je suis venu dans ces murs le 4 janvier 1999, c'était Jacques Delarosière et Yvon Gattaz qui m'avaient invité pour venir parler de mes théories de la croissance. Donc déjà, voilà, j'ai poursuivi dans la voie que j'avais déjà initiée. En fait, en 87, et que j'avais commencé à présenter dans mon intervention de 99. Donc, je suis un économiste spécialisé dans la théorie de la croissance économique, et j'ai élaboré ce qu'on appelle maintenant la théorie de la croissance schumpeterienne. L'idée étant que, voilà, la croissance, surtout dans les pays développés, il y a trois idées importantes. La croissance repose sur l'innovation. L'innovation, eh bien, elle est le fait d'entrepreneurs, et les entrepreneurs répondent aux incitations. Donc les institutions et politiques économiques influent sur la croissance parce qu'elles influent sur les incitations à s'engager dans des investissements innovants. Donc on peut parler de politique de croissance, puisqu'on peut voir comment des politiques et des institutions influent sur les incitations à innover et donc génèrent de la croissance. Et la troisième idée, c'est l'idée de la destruction créatrice, c'est-à-dire que l'innovation, c'est le nouveau qui remplace l'ancien. C'est le conflit entre le nouveau et l'ancien. Donc on peut parler d'économie politique de la croissance. Donc d'un coup, la croissance qui est un domaine assez rébarbatif, je dois bien dire, quand j'étais étudiant, j'ai trouvé assez ennuyeux, est devenu tout d'un coup un domaine très excitant parce qu'on y parle de conflit et d'économie politique de la croissance. Voilà. Une autre idée que j'ai poussée pas mal, c'est que, en fait, les ressorts... Il y a deux façons de générer de la croissance. Enfin, je simplifie. Il y a deux façons de générer de la croissance de la productivité. L'une, c'est l'imitation. J'imite des technologies plus avancées. Et l'autre, c'est l'innovation à la frontière. C'est-à-dire que j'ai personne devant moi et je dois progresser sur moi-même. Et les institutions et politiques qui favorisent la croissance par l'imitation ne sont pas les mêmes que celles qui favorisent la croissance par l'innovation. Alors, une économie n'est jamais entièrement une économie d'imitation ou d'innovation. Mais disons, pour simplifier, évidemment, la France a toujours beaucoup innové. Mais une manière simple, c'est de dire, voilà, l'économie des Trente Glorieuses, c'était quand même beaucoup du rattrapage et de l'imitation. Nous avions des institutions adaptées pour ça. Disons, voilà, des politiques industrielles. On avait un marché du travail où les gens passaient toute leur vie dans la même entreprise ou le même secteur. Des caisses de retraite pour chaque métier, des caisses d'assurance maladie pour chaque métier. On avait une économie adaptée aux nécessités. Un système éducatif très centré sur le primaire, secondaire et les grandes écoles. Mais une économie d'innovation, eh bien, il lui faut d'autres conditions. Voilà, et un peu le problème que rencontre la France aujourd'hui, c'est qu'elle doit faire une transition de l'économie d'imitation qu'elle était et se doter d'institutions et de politiques qui lui permettra d'être pleinement une économie d'innovation, parce que maintenant l'imitation, elle est faite par les pays émergents. On ne peut plus être une économie d'imitation, on doit être une économie d'innovation. Et toute la difficulté maintenant, c'est d'engager la France sur la voie de réformes qui lui permettront de devenir véritablement une économie d'innovation. Alors je vais pas aller dans toutes les réformes, parce que on me demande de parler d'éducation supérieure, donc je vais me concentrer aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on attend d'un système d'éducation supérieure et de recherche dans une économie de l'innovation. Alors, on attend au moins deux choses. D'abord, il faut qu'il génère de la recherche de pointe. Alors, on a toujours eu en France d'excellents chercheurs, et il ne s'agit pas là d'amoindrir la qualité, le travail remarquable de nos chercheurs. Mais ils doivent souvent, ils ont dû ramer contre le système pour pouvoir faire leur recherche. Donc, il faut un système qui génère de la recherche de pointe. La Silicon Valley se situe près de Stanford, la Route 128, c'est près du MIT. Je veux dire, il y a pas de voilà. Il faut des universités de pointe bien financées et bien gouvernées pour pouvoir générer cette recherche de pointe. Et la deuxième chose, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, l'innovation, c'est la destruction créatrice. Donc les gens, on va plus passer toute sa vie dans le même secteur ou dans le même emploi. Nos concitoyens vont être amenés à changer de secteur et d'emploi tout au long de leur vie. Et il faut un système d'éducation supérieure qui prépare nos jeunes à cette mobilité et leur apprenne à rebondir d'un emploi à un autre et leur apprenne à continuellement apprendre au cours de leur vie. On a l'enseignement de base, mais ça sera une vie où on sera sans arrêt en transition entre l'éducation et l'emploi et on devra s'éduquer tout au long de sa vie. Voilà, c'est une nouvelle et l'université doit jouer un rôle important pour préparer les individus à ce mode de vie-là. Voilà, au moins deux. Donc l'un, c'est recherche d'excellence et l'autre, c'est mobilité professionnelle et insertion professionnelle. Or, notre système actuel d'enseignement supérieur de recherche, sur le plan de la recherche, bon, il y a d'excellents chercheurs en France, on a des mathématiciens, on a la meilleure école de maths, on a des performances extraordinaires dans tous les domaines. Mais c'est vrai que si on regarde les classements, alors on peut accorder, chaque classement est imparfait, mais il faut regarder globalement, il y a Shanghai, il y a le Times, on peut regarder en termes de publications, d'impact des publications, on se situe quand même largement derrière les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Suède également, et d'autres pays. Donc, étant donné le potentiel que nous avons, nous pourrions faire beaucoup mieux. Donc, il y a déjà, on est loin derrière d'autres pays développés et on pourrait être au même niveau qu'eux. Et sur le plan maintenant de l'insertion professionnelle, 60% des étudiants universitaires échouent au bout de 3 ans, 24% d'enfants d'ouvriers qui quittent l'université sans diplôme et viennent accroître les effectifs du chômage chaque année. Voilà. Donc, comment réformer notre système d'enseignement supérieur et de recherche pour à la fois améliorer nos performances de recherche et permettre une meilleure insertion professionnelle de nos jeunes. Donc voilà un petit peu ce dont je vais parler maintenant. Je me déshydrate très vite. Désolé. Donc mon plan, je vais d'abord parler du lien entre éducation supérieure, innovation et croissance d'une manière générale. Voilà. Ensuite, je vais comparer la France aux autres pays développés. Et ensuite, je vais vous soumettre quelques idées sur comment réformer davantage, parce que je peux pas dire, il y a eu des réformes, et je vais mentionner la LRU, et puis il y a eu des choses importantes qui ont été faites, notamment sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, et avec Valérie Pécresse, qui étaient quand même des réformes audacieuses, et auxquelles il faut rendre hommage, et je le ferai dans cette intervention. Mais comment approfondir ces réformes? Voilà, donc je vais... Vous me dites, j'espère que je suis à l'heure. Alors, d'abord, je vais parler de la relation entre éducation supérieure, innovation et croissance. J'ai dit tout à l'heure qu'une économie d'innovation a besoin d'universités. Elle a besoin en particulier de ce qu'on appelle d'écoles de troisième cycle d'excellence. On dit en anglais graduate schools. Il faut des graduate schools qui soient bien dotées, et bien financées et bien gouvernées. Voilà. Et on peut montrer, en fait, j'ai fait des travaux, à la fois sur des comparaisons internationales ou sur des données entre comparaisons entre États américains, et j'ai montré qu'en fait, la croissance de la productivité ou le nombre de brevets ou l'impact des brevets, si on peut regarder l'un ou l'autre, augmenter avec l'investissement en éducation supérieure, avec l'autonomie que l'on donne aux universités, et avec également le fait qu'il y ait une part plus grande du financement des universités qui repose sur des bourses genre type NSF ou ANR ou Conseil de Recherche Européen. Voilà, si l'université est entièrement financée par l'État et pas par des bourses, en général, voilà, c'est un élément incitatif. Donc en fait, les conclusions de ces études que j'ai faites, c'est que sur données à la fois de comparaison de pays ou comparaison entre États américains et enfin sur d'autres, c'est que plus un pays ou une région est proche de la frontière technologique, donc plus c'est l'innovation qui est le moteur de la croissance, eh bien plus la croissance dans ce pays ou cette région est stimulée par un investissement accru en éducation supérieure. Donc c'est une conclusion qui ressort très nettement de ces études. Deuxième conclusion, il y a complémentarité entre investissement en éducation supérieure et autonomie des universités. L'un va avec l'autre. Si vous donnez de l'argent et que vous ne changez pas la gouvernance, vous aurez beaucoup moins d'effet que si vous donnez de l'argent et vous changez la gouvernance. Et en particulier, l'autonomie en matière de ressources humaines et de budget sont des aspects d'autonomie qui sont très importants. Ça, c'est sorti notamment de l'étude pour Bruegel et de la recherche qui a mené à cette étude pour Bruegel. Donc ça, c'est le deuxième. Donc il y a complémentarité entre financement et autonomie. Les deux, ça va l'un avec l'autre. Troisième idée, il y a complémentarité entre investissement en éducation supérieure et et le fait que eh bien, une partie du financement des universités se repose sur des bourses qui émanent du Conseil de recherche européen ou de l'ANR, ou des bourses concurrentielles, et aux États-Unis de la NSF. Voilà, d'introduire un élément d'incitation est un élément supplémentaire qui concourt à l'excellence universitaire. Voilà. Donc ça, donc il y a en gros trois piliers: moyens financiers, autonomie et incitation. Et une bonne réforme de l'éducation supérieure doit jouer sur ces trois piliers-là. D'accord ? Alors, c'est des études plutôt macroéconomiques. Je regardais des régions ou des pays. Mais j'ai fait une étude, je voulais vous la livrer, parce que j'aime bien, comme je suis chercheur, j'aime bien parler de ce que je fais en ce moment. Ça, ils sont le vif. Je suis fasciné en ce moment parce que je travaille sur des données micro, très, très microéconomiques. J'ai des données où je peux regarder les inventeurs. J'ai fait ça pour la Finlande. Maintenant, je suis en train de le faire pour la France. Et je peux connaître le revenu des parents, l'éducation des parents. En Finlande, je peux connaître le QI parce que les innovateurs de sexe masculin font le service militaire et là ils ont des tests de QI, notamment il y a le QI maths, le QI verbal et le QI visio-spatial. C'est très intéressant, donc on peut dire des... Et leur niveau d'éducation. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut mettre ensemble des données fiscales, des données de recensement sur l'occupation et le revenu des parents et des données en termes de brevets et d'impact des brevets. Et on peut voir, voilà, les bons innovateurs, d'où ils viennent, qui sont-ils? Et là, on obtient des conclusions tout à fait étonnantes. D'abord, il y avait une étude semblable a été faite aux États-Unis, et on regardait la probabilité d'inventer en fonction du revenu des parents. Et on voit que c'est une courbe, je sais que je ne peux pas montrer de transparent ici, je la fais avec des mains. On voit qu'en gros, quand le revenu des parents, c'est une courbe assez plate, c'est-à-dire que quand on part avec des parents qui ont un revenu assez faible, et qu'on augmente le revenu des parents, la probabilité d'innover n'augmente pas beaucoup. Et quand on arrive dans les zones élevées de revenus des parents, tout d'un coup, la courbe se met à augmenter très vite. C'est-à-dire qu'il semble que d'avoir des parents qui ont des revenus très élevés ou qui sont dans le top des revenus, ça a une incidence sur la probabilité d'inventer. C'était assez curieux, mais ça, c'est américain. Il y a eu un collègue qui a fait la même étude sur données historiques américaines remontant à 1840, obtient exactement la même courbe. Et moi, je me suis dit, si je regarde les données finlandaises, comme l'école est gratuite en Finlande, qu'on a l'impression que c'est une école de très bonne qualité, ce qui est le cas, mais je vais trouver une courbe complètement plate. C'est-à-dire que normalement, le revenu des parents ne devrait avoir aucune incidence sur la probabilité d'inventer. Et là, grande surprise, je retrouve une courbe qui est similaire à la courbe américaine. Mais je dis, comment est-ce possible, puisque l'école est gratuite, de très bonne qualité, on ne dépense pas un sou pour l'éducation depuis le jardin d'enfants jusqu'au PhD, comment est-ce possible? Et donc, on a essayé de comprendre. D'abord, on a fait une régression statistique de la probabilité d'inventer sur le revenu des parents. Donc, on trouve que d'avoir des parents avec un revenu élevé, c'est un déterminant. Mais alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a contrôlé pour l'éducation des parents. Et on s'est rendu compte que quand on contrôle pour le niveau éducatif des parents, eh bien, la courbe baisse. C'est-à-dire que le canal, c'est que des parents qui gagnent beaucoup en Finlande sont des parents éduqués et ils transmettent l'éducation à leurs enfants. C'est intéressant. C'est par le canal de l'éducation en Finlande que ça passe. Ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, ça serait la même chose. Donc, l'importance de la transmission de l'éducation par les parents. Ensuite, on a contrôlé pour le QI. Évidemment, la courbe s'aplatit encore davantage. Et puis ensuite, on a contrôlé pour le niveau d'études de l'individu. Et là, ça absorbe tout. C'est-à-dire qu'essentiellement, le niveau d'études, d'avoir un PhD en sciences, ça explique pratiquement entièrement la probabilité de devenir inventeur. Et donc, c'est intéressant. Au total, qu'est-ce qui compte? C'est le niveau d'éducation, et notamment d'avoir un PhD en sciences ou un master en sciences, et dans une moindre mesure, le QI. Mais le niveau d'éducation lui-même dépend de l'éducation des parents et un peu du QI également. Donc, le QI agit directement et indirectement à travers le niveau d'éducation, mais l'éducation des parents et les ressources des parents jouent un rôle très important pour expliquer l'éducation des enfants. Donc, voilà. Donc, c'est quand même indépendant, puisque je parle d'éducation supérieure aujourd'hui. Hein. Donc, et alors, l'autre chose qu'on a trouvé qui est très intéressante, c'est que l'éducation et le QI sont complémentaires. Vous voyez, c'est des facteurs complémentaires. Chacun est important en lui-même, mais si vous donnez l'éducation à quelqu'un à QI plus élevé, ça augmente encore plus. Alors, l'idée, c'est pas de dire sélectionnez les gens à grand QI et ne donnez pas l'éducation aux autres. C'est pas du tout mon propos. Moi, je suis pour un système éducatif et d'enseignement supérieur qui donne sa chance à tous, mais en particulier qui s'assure que les gens qui ont des forts potentiels, les enfants qui ont des forts potentiels, ne sont pas les
laisser sur le bord de la route, parce que si vous faites ça, vous perdez énormément au potentiel d'innovation au niveau du pays. Voilà, donc c'est intéressant. Je ne prends pas de jugement, mais c'est des conclusions intéressantes. Donc, que retenir de mon exposé jusqu'à présent ? 1. Plus une économie est proche de la frontière technologique, plus l'investissement en enseignement supérieur et recherche est un levier de croissance. Il y a complémentarité entre investissement, autonomie, incitation. Et enfin, il faut s'assurer que les individus, qu'il y a accès à tous aux études de bonne qualité, mais en particulier s'assurer que les individus les plus talentueux accèdent aux meilleurs enseignements, quel que soit leur milieu social, pour maximiser notre potentiel d'innovation. Voilà. Donc ça, c'est le. Donc maintenant, je vais parler un peu de la France comparée à d'autres pays. Est-ce que sur le temps, je me débrouille ? Ça va ? Comme je boive un petit peu, parce que je me déshydrate à la vitesse grand V, là. Voilà. Alors, j'avais travaillé un petit peu pour Bruegel et puis le rapport pour Valérie Pécresse. Et on avait fait un article avec des co-auteurs pour Economic Policy. Et on avait regardé un petit peu les performances Shanghai ou les citations, etc. Et le premier résultat, donc on peut classer les pays. Parce que vous savez, il y a des classements Shanghai. Je veux pas vous embêter avec les classements Shanghai. En gros, si on regarde les 100 premiers de Shanghai, le premier a la note 100. C'est un peu comme le vote qu'on a eu tout à l'heure. Bon, le deuxième a la note 99, le troisième a la note 98, et on descend jusqu'au centième qui a la note 1, et tout le monde reste en 0. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et on regarde les pays, ont différentes universités qui peuvent être classées Shanghai, on fait la somme de tous ces chiffres, on divise et ensuite on compare au niveau américain et on fait en sorte que l'Amérique soit à 100. Vous voyez, je normalise les États-Unis à 100 et je regarde comparé à l'Amérique et je regarde les 100 premiers de Shanghai. Eh bien, la France est loin derrière. Si les États-Unis sont à 100, la Suisse est à 97. C'est extraordinaire l'exemple suisse. C'est intéressant la Suisse. Après, on me dit tu es américain, tu penses que c'est non. Les États-Unis sont à 72. La France est à 3. Dramatique. La Suède à 7 et l'Allemagne à 0. Remarquez ça, on fait un peu mieux que l'Allemagne. Non, bon, c'est les 100 premiers de Shanghai. Mais maintenant, je peux... les 50 premiers de Shanghai, pardon. Ça, c'est les 50 premiers. Les 50 premiers. La France, 3. Donc, c'est très dur d'être dans les 50 premiers. Maintenant, je regarde les 100 premiers. D'accord ? Donc, quand je fais les 50 premiers, je mettais la note 50 au premier, la note 49 au deuxième, la note 48 au troisième, et je descendais jusqu'à 50, et après, tout le monde avait zéro. Maintenant, je regarde les 100 premiers. 100 premiers, la Suède a 117, si les États-Unis ont 100. Donc là, la Suède, tout d'un coup, elle émerge. Les autres qui se débrouillaient déjà très bien, comme la Suisse et les Royaumes-Unis se débrouillent très bien. La France, 15. Donc même dans les 100 premiers, la France n'a que 15. Et l'Allemagne, 17. Si je regarde les 200 premiers, la France monte à 29. Et si je regarde les 500 premiers, la France monte à 45. Donc ça vous donne quand même une idée du chemin à faire. Alors on peut dire, si vous n'aimez pas Shanghai, regardez des classements en termes de brevets, d'impact des brevets, vous trouvez quelque chose de très similaire. D'accord ? Ça, c'est l'état des lieux. Deuxième résultat, il y a une corrélation. Donc maintenant, on dit, voilà l'état des lieux. Maintenant, qu'est-ce qui détermine un bon classement ? Eh bien, l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent y contribue. C'est-à-dire que le résultat qu'on trouve, c'est une corrélation fortement positive entre les dépenses par étudiant et les performances Shanghai. D'accord ? Il faut des moyens. Sans moyens, dans la pauvreté, dans la misère, on n'arrive à rien. Voilà. Alors, aux États-Unis, en 2001, les États-Unis dépensaient 36 500 euros par étudiant par an, dont 16 600 publics et 19 900 privés. La France, à l'époque, était à 8 700 euros par an. Maintenant, on est monté. On est à peu près à 12 000, 13 000, d'accord ? Mais on est quand même très en dessous. D'accord ? Et en France, c'est 7 500 étaient publics, 1 200 privés. Alors, ça a changé un peu, ces chiffres-là. La Suède est à peu près à 20 000, dont l'essentiel est public. Tout est pratiquement public en Suède. D'accord ? Donc, États-Unis, 36 500, Suède, 20 000, et nous, à peu près 9 000. Et on trouve les classements. US, c'est mieux que la Suède, et la Suède, c'est mieux que nous. D'accord ? Donc, c'est intéressant. Donc, voilà. Et la France a aujourd'hui à peu près à 12 000, 13 000 euros par étudiant par an, mais on est quand même loin des 20 000 Suédois, et alors, on est quand même encore très loin des 36 000 Américains. D'accord ? Deux résultats suivants. La gouvernance. Eh bien, on a envoyé des questionnaires aux 500 meilleurs du classement de Shanghai en 2006. Est-ce que vous déterminez vous-même vos programmes ou est-ce qu'on vous les impose ? Est-ce que vous déterminez votre grille salariale ou on vous les impose ? Est-ce que vous avez de libre d'embaucher qui vous voulez ? Vous voyez très bien où je vais venir, là. Vous voyez venir, un gros sabot. Disposez-vous d'une totale autonomie budgétaire ? Disposez-vous d'une autonomie dans l'achat d'équipements ? Quelle est votre part de budget financé par des bourses, comme je disais tout à l'heure ? Et là, la France, évidemment, est en queue de peloton en matière d'autonomie. En particulier, très peu d'autonomie en matière de recrutement, j'y reviens tout à l'heure, ou de promotion, et également d'achat d'équipement. Moi, si je veux acheter un équipement au Collège de France, on me donne une liste. Et il faut que ça rentre dans la liste. Voilà, enfin, c'est amusant. C'est une relecture de Kafka. Et ce qu'on a montré, c'est qu'il y a une corrélation fortement positive entre autonomie et performance Shanghai. Donc j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait une corrélation positive entre les moyens mis dans l'université et les performances. Il y a une corrélation également positive avec l'autonomie. Résultat suivant, il y a complémentarité, vous savez, je suis très obsédé par les complémentarités, entre autonomie et moyens dans les performances Shanghai. C'est-à-dire que vous donnez des moyens à une université plus autonome, les faits sur les performances Shanghai vont être bien plus importants que si vous ne changez pas la gouvernance. Et c'est important non seulement pour l'excellence en matière de recherche, mais également pour l'excellence en matière d'insertion professionnelle. Je ne suis pas obsédé. Rappelez-vous que l'objectif est double. C'est à la fois d'avoir de très bonnes performances de recherche et d'améliorer l'insertion professionnelle. Il y a différentes manières de mesurer l'insertion professionnelle. Inversement, par le taux de chômage des jeunes diplômés, par l'écart de taux de chômage entre diplômés du secondaire et diplômés du supérieur, par le niveau de satisfaction professionnelle, par la durée de recherche d'un emploi. Vous avez différentes mesures qui ne sont pas totalement équivalentes, mais qui sont assez semblables. Et vous pouvez mesurer la performance d'université en matière d'insertion. Eh bien, l'autonomie et les moyens qui sont déjà très importants pour des bonnes performances de recherche, c'est également important et complémentaire pour l'insertion professionnelle. C'est une chance que ce soit les mêmes ingrédients qui vous donnent et l'un et l'autre. C'est une chance. Voilà. Donc, alors maintenant, parlons de la réforme. Venons-en au sérieux, là. Je vais juste reprendre un peu d'eau. C'était une introduction. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, là. Alors, comment réformer davantage notre système d'enseignement et recherche? J'ai dit tout à l'heure, il faut plus de moyens, plus d'autonomie, plus d'incitation. Il y a eu la loi LRU, qui est passée le 10 août 2007, et c'est un premier pas important vers davantage d'autonomie. Cette loi accordait une autonomie accrue en matière de gouvernance, non pas une autonomie de statut par rapport à l'État, les universités demeurent intégralement publiques, pas une autonomie sur le recrutement, en tout cas pas véritable, ni vraiment en matière de financement. Mais, et ça c'est très bien décrit par Monique Antos-Perber dans son ouvrage, donc là ça m'a été très utile pour préparer cette partie, les universités peuvent définir une stratégie scientifique et allouer les moyens financiers disponibles pour cette stratégie, pour soutenir des initiatives nouvelles. Donc ça, c'est déjà il y a une identité de l'université. Et les anciens chercheurs qui avant étaient payés directement par Bercy, ils reçoivent leur fiche de paye de l'université. C'est peut-être pas une grande différence, mais symboliquement, ça fait qu'une différence. On est employé de l'université. Voilà, c'est ce que c'est. Voilà, on peut en discuter. Mais pourtant, malgré ces réformes, eh bien, l'écart ne cesse de se creuser en matière de performance scientifique entre nous et des pays comme la Suisse, la Suède, les États-Unis. D'accord? Donc là, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc il faut passer à la vitesse supérieure. Et valoriser encore davantage les trois piliers, moyens, autonomie, incitation. Alors là, j'ai un petit peu travaillé récemment avec d'autres sur une feuille de route pour le président de la République. Et en gros, voilà, donc, alors il y a des choses qui ont été retenues, puis des choses que moi je pousse et qui j'espère seront retenues. Bon, augmentation des moyens, le budget de l'enseignement supérieur, je pense, sera augmenté. Je ne veux pas dire de combien, je ne veux pas dire... Mais enfin, en tout cas, dans la feuille, il était question d'augmenter de 1,4 à 1,6 points de PIB. Donc je ne sais pas ce qui sera retenu. Donc ça, c'est ce qu'on proposait. Je ne sais pas quel arbitrage sera retenu, surtout que maintenant, alors, il y a des contraintes budgétaires qui ne vous ont pas échappé, qui vont devoir être traitées. Mais il y a l'idée d'augmenter les moyens, ça, c'est reconnu. Alors, une idée que j'ai poussée personnellement pendant cette campagne, c'est comme moyen d'augmenter l'autonomie, c'est de... Vous savez, il y a les conseils nationaux universitaires. Pour le moment, quand on veut embaucher et promouvoir, on est pratiquement obligé de passer par le CNU. Alors, je ne veux pas du tout... ça a beaucoup de qualités. Le CNU est c'est aussi un garant de qualité, c'est un garant, donc il y a de très bonnes choses avec le CNU. Mais nous, en économie, ça vous a peut-être pas échappé, je ne sais pas si les débats ont eu lieu, nous avons eu des petits problèmes avec l'économie au CNU. Il y a eu un groupe d'économistes qui ont voulu créer une deuxième section du CNU. Voilà, il y a un débat infernal, voilà. Et moi, ça m'a donné un peu l'idée de dire, mais pourquoi ni une première section, ni une deuxième section? Pourquoi ne pas donner aux universités elles-mêmes le pouvoir de recruter et de promouvoir les enseignants-chercheurs? Alors, ce n'est pas dire que le CNU garderait un rôle, mais donner quand même aux universités le droit de le faire également. Peut-être que petit à petit, le CNU de... Voilà. Donc alors évidemment, ça pose un problème qui est celui de la qualité, parce que d'abord, les universités peuvent recruter... Il y a l'endogamie, il y a le risque que les universités embauchent leurs personnes. Donc ça, on peut dire qu'on ne le permet pas. Donc toute la question, c'est d'empêcher l'endogamie ou de minimiser la probabilité d'endogamie. Et la deuxième chose, c'est l'évaluation de la qualité. Mais là, on passe à un système d'incitation qui est de dire, on évalue la qualité. En Angleterre, par exemple, que j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre, il y avait ce qu'on appelait les Research Assessment Exercises et les Teaching Assessment Exercises. Nous étions évalués. Et selon l'évaluation, si on obtenait des financements ou pas. Donc les universités ne pouvaient pas faire n'importe quoi parce qu'elles savaient qu'elles n'obtiendraient pas les financements. Donc on ne passera pas à un système comme ça du jour au lendemain, mais je crois qu'il faut responsabiliser les universités et leur dire on va vous responsabiliser, mais il y aura un système d'évaluation et d'incitation. Voilà. Donc on n'ira pas en une fois, mais je crois qu'il faut évoluer vers un système où on traite les gens comme des adultes, mais en même temps ils ont des droits et des devoirs et ils sont responsables. Voilà. Donc je crois que et l'idée que de donner, donc cette idée a été retenue par je crois que le président a été faire un discours à Grenoble où il avait retenu mon idée, j'étais très content. Troisièmement, mettre en place un système d'incitation cohérent. Donc ça, je vous l'ai dit. Donc c'est à la fois un système d'incitation à l'excellence sur le modèle des Research Teaching Assessment britanniques ou de leurs équivalents suisses ou scandinaves. Donc ça, je l'ai dit. Et également une ANR dont le budget serait sensiblement augmenté. Vous savez que le budget de l'ANR, maintenant, c'est 800 millions. Les Allemands, c'est 2 milliards. Et encore, il a fallu se battre pour que ça ne tombe pas à 500. Donc on est vraiment lilliputien à côté de l'Allemagne, voyez. Donc il faut qu'on ait une ANR qui soit bien financée, puisque j'ai dit tout à l'heure l'importance de l'aspect incitation pour l'excellence universitaire. Donc si vous avez une ANR très sous-financée, ils retiennent très peu de projets et les gens sont découragés de soumettre. Ils disent pourquoi je vais me passer du temps à soumettre un projet à l'ANR, puisque de toute façon je ne serai pas pris, puisqu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Alors, autre mesure que moi je pousse, alors là c'est moi qui m'exprime, il faut mettre davantage l'accent sur l'objectif, j'y arrive presque au bout, hein. Je ne dépasse pas, je ne suis pas encore. Il faut mettre l'accent davantage sur l'objectif d'insertion professionnelle, en particulier à travers une plus grande diversité des parcours et flexibilité des parcours. Je suis vraiment pour avoir des filières courtes, des filières longues, des filières professionnelles, des filières générales, dans le même collège universitaire, vous voyez, et avec des passerelles. Donc on peut commencer en court, passer en long, et vous voyez, des passerelles. Et les Suisses sont en train d'expérimenter un système comme ça. Donc on peut le faire. Et donc il faut, nous, pour l'instant, c'est très séparé, les IUT, les grandes écoles, tout ça est dans des situations différentes. Je suis pour petit à petit rapprocher les institutions de façon qu'il y ait une culture de la première chance, de la deuxième chance et qu'on puisse passer de l'un à l'autre plus facilement. Il y a l'exemple suisse, mais il y a d'autres exemples. Cette flexibilité accrue des parcours contribuera à réduire l'échec à l'université et à donner une seconde chance à tous ceux qui poursuivent des études supérieures. Je crois aussi beaucoup à la spécialisation progressive en premier cycle. Vous savez, il y avait l'idée de la propédeutique, c'est pas nouveau. Et aux États-Unis, comme je suis passé quand même 15 ans à Harvard, j'ai vu l'avantage. Moi, j'ai vu des étudiants qui commençaient en économie, après aller dans d'autres matières, ou le contraire. Et on peut, à un moment donné, se rendre compte d'abord qu'on n'est peut-être pas aussi bon qu'on pensait, ou qu'on n'aime pas autant la matière qu'on pensait. Et on peut, mais on ne perd pas le bénéfice des deux premières années. Et les classes prépa, elles ont une spécialisation progressive. Quand vous faites, maths sup, c'est pas la même chose que CAN, mais dans maths sup, vous pouvez décider plus tard que vous allez vers la physique, chimie, ou vers les maths. Et en littéraire, vous pouvez décider que vous allez vers le latin grec, ou vers les lettres modernes, ou vers... Eh bien, il faut réintroduire ça en premier cycle également, la spécialisation progressive, parce que je ne crois pas du tout à la sélection par l'échec, je crois beaucoup à la sélection par l'orientation, et permettre la sélection progressive, l'orientation progressive est une manière d'atteindre ce but. Donc ça, voilà. Et là également, les Suisses ont fait des choses très intéressantes. Il y a l'exemple américain. En Allemagne, il y a le Leibniz College de Tübingen, apparemment, qui est très bien dans ce domaine et qui fait des choses très bien, et d'autres endroits. Alors, je pense également qu'il faut une meilleure qualité de l'information des étudiants sur le contenu et la qualité des enseignements, ainsi que sur les débouchés. Il faut créer des portails nationaux d'information, que les étudiants, quand ils décident, eh bien, ils puissent décider d'exprimer les préférences en étant informés des débouchés des différentes universités. Vous savez que ça existe en Angleterre, en Allemagne, dans d'autres pays. Il faut que nous puissions mettre en place un portail national. Ça m'amène au problème de l'orientation à l'entrée. Attention, il y a un mot que je dois faire très attention. Et c'est l'instauration d'un système d'orientation à l'entrée de l'université, je l'appelle comme ça, hein. Il faut remplacer le système APB, Admission Post-Bac actuel, fondé sur la sectorisation et le tirage au sort, par un système d'allocation des étudiants basé à la fois sur les préférences exprimées par les étudiants, qui seraient basées sur ce portail, sur cet meilleur accès à l'information, parce que pour le moment ils n'ont pas l'information, et deux, le mérite. Il faut donner la priorité aux meilleurs étudiants issus de chaque établissement secondaire. Il y a une manière de le faire aussi qui ne pénalise pas les gens venant de zones défavorisées. Toutes les initiatives qui ont été de dire les très bons venant même des zones les plus défavorisées peuvent avoir une chance et doivent être poussées dans ces formations. J'ai un collègue qui s'appelle Al Roth, qui a eu le prix Nobel d'économie pour montrer comment on peut faire fonctionner un système comme ça où les préférences sont exprimées et ensuite il y a élection. Il faut davantage utiliser les travaux de mon ami Al Roth, qui était mon collègue à Harvard pendant plus de 10 ans. Voilà. Et je crois que ça serait un progrès gigantesque par rapport au système APB actuel. fin, et j'arrive presque au bout, vous avez été d'une patience d'ange, il faut progressivement surmonter la division de notre système d'enseignement supérieur et de recherche entre universités et grandes écoles. Cette dichotomie entre universités et grandes écoles est ancrée dans notre histoire, comme l'explique très bien Monique Cantos-Perber dans son ouvrage « L'oligarchie de l'excellence ». D'un côté, vous avez l'université, mais sous l'Ancien Régime, c'était un lieu fermé où se dispensait un enseignement très figé, réservé à une caste de privilégiés. C'était ça l'université de l'Ancien Régime. Et par exemple, elle explique très bien que la révolution des Lumières a à peine... disons que l'université était très imperméable à cette révolution des Lumières. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en 1793, eh bien, évidemment, surtout en réaction à ce côté très caste de l'université, eh bien, la révolution française supprime l'université. Elle est supprimée en 1793. Les universités ne sont rétablies que beaucoup plus tard, en 1876. Mais là, évidemment, on dit on va prendre le contre-pied total de ce que c'était avant. Et on passe d'une extrême à l'autre. Et l'université, bah, c'est un lieu où tous les bacheliers peuvent être admis sans sélection à l'entrée. Et on comprend maintenant d'où ça vient, la pas de sélection à l'entrée. C'était en réaction à ce qu'était l'université d'Ancien Régime. Voilà. Mais d'un autre, donc vous avez une université qui est interrompue et qui passe d'une extrême à l'autre, quelque part. Tandis que les grandes écoles, eh bien, c'est une évolution beaucoup plus harmonieuse et continue. Elles apparaissent vers la fin du XVIIe siècle pour répondre à la nécessité de diffuser des enseignements techniques et spécialisés. Et depuis leur apparition jusqu'à nos jours, les principes qui gouvernent ces grandes écoles n'ont pas beaucoup changé. Sélection par concours, programme de formation exigeant, croissance modérée du nombre d'effectifs. Alors la situation actuelle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est très simple, on fait le contraire de ce qu'il faut faire. Les universités sont pauvres, je l'ai montré tout à l'heure, taux d'échec élevé, 60% après 3 ans, ne sont pas en général le premier choix des meilleurs élèves issus du secondaire, d'accord? Et ne sélectionne pas du tout. En même temps, comme dirait l'expression, la fameuse, ouais, elle possède des laboratoires de recherche de premier plan, reconnus mondialement, et elle compte de nombreuses sommités scientifiques dans leurs effectifs. Donc il y a le pire et le meilleur dans l'université française. Et la recherche, ça, c'est là-bas que ça se passe. Voilà. Mais de l'autre côté, les grandes écoles, eh bien, elles ont une bonne, et elles ont une gouvernance pas très bonne, les universités. Ça, j'oublie, last but not least, quand même. Hein. Bon. Maintenant, les grandes écoles, elles attirent les meilleurs élèves du secondaire. Elles sont bien gouvernées, elles sont beaucoup mieux dotées que les universités, mais la recherche de pointe y est peu présente. Ces écoles se concentrent beaucoup sur les enseignements spécialisés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de recherche, mais c'est pas là que... Voilà. Ces écoles... Donc voilà, ça va pour une économie d'imitation, mais une économie d'innovation, il vous faut des graduate schools. Voilà, il vous faut du troisième cycle d'excellence. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'en Suisse, en Suède, aux US, en Grande-Bretagne, les meilleurs élèves du secondaire choisissent d'emblée l'université. Nous, ils évitent l'université. Où la recherche de pointe se fait. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors comment faire petit à petit converger les deux systèmes? Évidemment, on ne va pas supprimer, on va faire ça progressivement. Bon, d'abord, il faut donner davantage de moyens à l'université. C'est quand même important. C'est évident que tant que l'université est le parent très très pauvre de l'éducation supérieure, on ne pourra pas faire converger. Je crois qu'il y a d'autres pistes également. La mise en place d'un nouveau système de sélection à l'entrée, d'orientation à l'entrée, contribuera à faire converger les cultures. La progressivité dans la spécialisation et l'intégration et l'intégration des grandes écoles au sein des collèges universitaires, comprenant formation courte, formation longue et préparation aux grandes écoles, contribuera à intégrer les deux. Et puis la mise en place de bons systèmes de gouvernance. Alors là, j'en viens à la gouvernance. C'est quelque chose que j'ai beaucoup poussé dans le rapport pour Valérie Pécresse. C'est-à-dire que j'ai dit, voilà, les bonnes universités, par-delà les comparaisons, c'est très intéressant parce que par-delà la diversité des arrangements, il y a des constantes. Et les universités qui marchent bien, vous avez d'abord un conseil. C'est de la même manière qu'ici, on a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire. C'est Montesquieu appliqué à l'université. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un conseil d'administration qui est composé de personnalités en majorité externes à l'établissement. D'accord? Ça peut être des anciens alumni, des anciens étudiants, ça peut être des gens de la région, des gens qui économiquement sont influents, ça peut être différent. Et il nomme le président et surveille les grandes orientations budgétaires de l'université et l'application des grandes orientations de politique académique de l'université. Voilà, ça c'est le board. Et puis vous avez un sénat académique qui est composé de personnalités internes à l'établissement, essentiellement des professeurs, et qui en fait gouverne l'université. Et il y a les fameux comités ad hoc. C'est quand on veut recruter, moi j'ai été dans des comités ad hoc aux États-Unis, quand on veut recruter des professeurs par exemple, promouvoir, il y a évidemment les professeurs, mais on fait toujours venir des gens de l'extérieur qui vous disent non mais là ça va pas quoi. Donc il faut, et il y a toujours un regard externe quand même sur le processus de recrutement et de promotion. Voilà. Et bien je pense que ces principes là, alors d'un pays à l'autre ça peut changer. Par exemple les instituts Max Planck, les externes c'est les gens des Max Planck, des autres Max Planck. Vous voyez, chaque est d'un pays à l'autre, ça change. Mais ces principes de base de bonne gouvernance sont appliqués. Je crois qu'il faut les pousser pour ces principes-là. Et c'est des principes qui gouvernent les grandes écoles. Beaucoup de grandes écoles sont gouvernées de cette manière-là. Donc ça va rapprocher les grandes écoles des universités. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, j'espère que les éléments de réflexion que je viens de vous soumettre contribueront au débat sur comment réformer davantage notre système d'enseignement supérieur et de recherche pour aider à ce que la France retrouve le chemin d'une croissance soutenue et qui ne laisse personne sur le bord de la route. Je vous remercie de votre attention. Merci.